en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Les mathématiques jouent depuis le début des années 70 un rôle prépondérant dans une activité peu connue des marchés financiers, la gestion des produits dérivés. Ces instruments financiers permettent d'assurer des prises de position dans le futur, mais peuvent être aussi des instruments de spéculation et en tant que tels, très risqués. Explication de Nicole El-Khaoui au regard de la crise économique actuelle, une conférence qui se déroulait en novembre 2008 à l'Académie des sciences dans le cadre des défis scientifiques du 21e siècle.
J'ai la difficile tâche de parler aujourd'hui de mathématiques et marchés financiers. Parce que depuis quelques années, je faisais assez souvent des interventions sur ce thème, mais d'une certaine manière, j'avais un accueil assez surpris ou intéressé ou cherchant à comprendre un peu mieux. Mais depuis quelques temps, les positions sont renversées, donc... La place des mathématiques dans les marchés semble perçue comme étant fortement responsable d'une partie de la crise à laquelle on peut assister. Et le fait qu'un certain nombre d'étudiants aient très bien réussi dans ce domaine contribue à augmenter la responsabilité, on va dire, du groupe de finances dans cette situation-là. Donc je vais me proposer quand même de vous situer un tout petit peu et le champ de la finance dans lequel on intervient. Donc on fait des mathématiques en finance, il y en a de toutes sortes, mais il y a une activité particulière qui est celle qui est liée aux produits dérivés dont je vais parler, qui elle est vraiment très dépendante des mathématiques. On peut dire que c'est une activité qui sans les mathématiques n'existerait pas. Et donc je vais essayer de vous développer un tout petit peu quelle interaction il y a dans ce secteur-là. Donc nécessairement, je vais laisser de côté un certain nombre de champs de la finance, dont certains sont en plein développement, mais sur lesquels, personnellement, je n'ai pas travaillé. Et en même temps, dans un temps limité, c'est difficile de couvrir tous les aspects d'un domaine qui, par ailleurs, est extrêmement vaste. Donc, je vais dire deux mots de la crise financière et aussi de voir un tout petit peu comment l'activité qu'on a pu avoir peut avoir un rapport avec ça. Je reposerai la question en fin d'intervention. Donc, depuis un an, en fait, une crise financière secoue le monde entier, mais démarrée aux États-Unis. Avec la pratique très contestable des subprimes et de ses conséquences, et une deuxième retombée de cette crise a eu lieu en septembre quand le gouvernement américain a accepté la faillite de Lehman Brothers, qui a relancé en fait toute une série de difficultés, et pour le moment on ne sait plus très bien où on en est, malgré les interventions massives des États. Donc on est dans une situation, dans un monde de la finance très internationale, en principe très libérale, qui affirme qu'elle est capable de se réguler par elle-même, mais ces questions-là, évidemment, sont très nettement remises en question ces derniers temps. Alors, juste pour comprendre une partie, j'aurai deux, trois transparents rapidement, en particulier pour répondre au fait que la finance est responsable de tout. On ne peut pas séparer la dimension financière de la politique macroéconomique, et en particulier de la politique macroéconomique des États-Unis, qui, depuis quelques années, avait fait des choix très particuliers, qui étaient de remplacer en quelque sorte la croissance d'habitude organisée sur l'industrie traditionnelle, qui est en récession, mais en régression aux États-Unis, comme en France et ailleurs, par la consommation des ménages basée sur le crédit. Donc on a un endettement des ménages américains de 165%. Et ce crédit, en fait, il est à la fois référencé sur la richesse immobilière, non sur le revenu, et par ailleurs, il est financé par les parts mondiales. Donc, comment est-ce qu'on peut financer le crédit des ménages américains ? Eh bien, il faut pouvoir mettre sur le marché des titres que les uns et les autres, on ne va pas financer directement les États-Unis, et donc on va acheter des titres dans le marché, et ces titres ont joué un rôle extrêmement négatif ces derniers temps. Donc il y avait un biais sur toute cette activité, on a créé beaucoup de titres. Pour les vendre, on a expliqué qu'ils étaient beaucoup moins risqués qu'ils ne l'étaient effectivement. Et puis, le tout était dans un contexte de régulation très faible. Alors, comment est-ce qu'on se situe dans ce contexte-là ? Je voudrais juste rappeler un tout petit peu, parce que c'est au cœur de l'activité dans laquelle on intervient, quelque part, comment dans les marchés on essaye de gérer le risque financier. Donc en fait, le plus simple et le plus courant, même si c'est un peu naïf, c'est tout simplement ce qu'on appelle le netting, c'est-à-dire s'échanger des risques, mais il faut que l'échange soit exact, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui a exactement le risque inverse de vous-même. Et en général, c'est les banques ou l'intermédiation financière qui assurent l'intermédiaire pour que les gens puissent se rencontrer. Quand on n'arrive pas à trouver ce genre de choses, on va pratiquer ce qu'on appelle la diversification. Diversification, c'est le grand mot de la finance, alors pas de marché, mais plutôt de la gestion, qui consiste à dire, si on a des risques, ben, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Et donc, on va essayer de récupérer des petites fractions de risques d'activités assez différentes. Et comme ça, s'il y a un problème, eh ben, tous les secteurs seront pas problématiques en même temps. Et on pourra profiter donc d'une répartition équilibrée des risques. La titrisation, dont on a beaucoup parlé, est une manière de faire ce genre d'opération, et quand elle est menée raisonnablement, elle assure de la liquidité, permet à un certain nombre de gens de répartir ces risques, alors on va dire un peu horizontalement, dans différentes activités, etc. Donc on a assisté depuis 10 ans, et en particulier depuis 5 ans, à une croissance particulièrement élevée de cette activité, puisque on pouvait la voir croître de plus de 30% par an depuis 10 ans. En fait, ces opérations-là, qui sont assez classiques, mais qui étaient moins importantes, peuvent être complétées par ce qu'on appelle les produits dérivés. Et qu'est-ce que sont ces produits dérivés ? Ce sont des produits financiers qui permettent de faire des opérations dans le futur. Donc un grand nombre d'intervenants des marchés, donc les industriels, etc., vont avoir à se financer dans 3 mois, dans 6 mois, ou avoir à placer de l'argent. Une des choses extrêmement importantes qui caractérise le monde financier en ce moment, c'est la surliquidité des marchés, liée en partie à l'ampleur des fonds qui ont été levés à l'occasion des retraites. Ça représente 3 000 milliards de dollars, par exemple. Et donc, on va pouvoir intervenir sur les marchés et on va être amené à prendre des positions dans le futur, dans 3 mois, dans 6 ans, dans 10 ans. Les fonds de pension qui doivent gérer ces retraites doivent assurer des revenus sur le long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le problème de la longévité, par exemple, crée un risque supplémentaire dans toute cette structure. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger contre ce genre de choses ? Et ça, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés, et qui correspondent fondamentalement donc à une activité qui aura lieu dans le futur. Donc la plus simple, c'est les contrats à terme, c'est des promesses de vente, d'achat ou de vente, alors soit de taux d'intérêt, soit de taux de change, soit de choses assez variées. Et on se met d'accord avec une contrepartie pour fixer un prix dans le futur. Et puis, à l'échéance, on négocie au niveau du prix qui a été fixé. Quand ça concerne les taux d'intérêt, c'est souvent sous la forme de ce qu'on appelle les swaps. Et ça a permis de gérer la dette des États, en particulier, d'une manière beaucoup plus souple. Et le dernier exemple sont ce qu'on appelle les options, parce que c'est des choses qui contiennent une dimension de choix. Et en fait, c'est dans ce domaine des options qu'on a été amené à travailler pas mal, et dans lequel il y a une composante quantitative extrêmement importante. Donc ces produits dérivés ont souvent une mauvaise réputation, parce qu'ils ont en fait ce qu'on appelle un fort effet de levier. Si on les emploie pour spéculer, on peut gagner beaucoup, mais comme dans un monde incertain, quand on peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup, et en général, vous êtes mieux documenté sur les pertes que sur les gains. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler un produit dérivé et en quoi on va être concerné par ça ? Donc, c'est tout simplement des contrats qui garantissent qu'on puisse faire une opération, acheter des dollars dans 6 mois ou dans 1 an, à un prix, alors si c'est l'achat, à un prix maximal. Pourquoi c'est une dimension optionnelle ? Tout simplement, si le cours est en dessous du prix garanti, ben on fait l'opération au prix normal, et s'il est au-dessus, on exerce son droit de pouvoir acheter à un cours plafond. Alors, dans ce genre de prix garanti, il y a les contrats à terme et puis les options d'achat et de vente. Et Bachelier, en 1900, avait déjà réfléchi à la manière de faire les prix de ces options d'une manière très intéressante, assez axiomatique d'ailleurs. Et ça a été à l'origine de beaucoup de découvertes que les gens vont redécouvrir plus tard. Alors la question c'est si on garantit quelque chose à quelqu'un, ben, ça va avoir un prix. Et donc la question de savoir quel est le prix de ces options est évidemment une question majeure puisque sinon il n'y aurait pas d'échange. Alors comme Bachelier en fait en 1900, qui a une réflexion axiomatique sur ses produits, en fait il y a un certain nombre de remarques de bon sens qui disent que si vous garantissez plus dans tous les états du monde, comme disent les économistes, ben, vous devez payer plus cher. Et puis, il y a une idée d'additivité des prix, c'est que si un flux peut être décomposé, ben son prix doit être la somme des prix. Donc ça, ça sous-entend déjà qu'il y a une certaine fluidité dans les échanges, parce que sinon, on peut trouver des fourchettes autour des prix, et l'addition ne devient plus linéaire, mais sous-linéaire. Alors, je voulais juste dégager les principes qui soutiennent, absolument minimaux, qui soutiennent le fonctionnement de ces marchés et surtout la manière dont finalement on va faire les prix et surtout comment on va les gérer. Donc la règle de base, hein, qui pourra être un peu discutée, c'est que dans un marché très liquide, ce qui est le cas de ces marchés souvent organisés, en fait, on ne peut pas faire du profit à coup sûr sans mise de fonds. C'est-à-dire que si vous empruntez pour jouer, eh ben, il y a toujours des situations où vous risquez de perdre et il n'y a pas de situation où vous puissiez être sûr de gagner. Donc ça, ça va exclure un certain nombre de situations. A priori, s'il y a suffisamment de liquidités, deux stratégies qui donnent les mêmes flux vont avoir le même prix et à n'importe quelle valeur intermédiaire. Et ça, c'était aussi un principe que Bachelier avait retenu. Et comme conséquence de cette règle du prix unique, on a une première chose qui est très importante, c'est que ces contrats à terme, ceux qui n'ont pas de dimension optionnelle, en fait, ont un prix qui est fixé dans le marché, indépendamment de tout modèle, indépendamment d'anticipation sur la manière dont les choses vont évoluer. Et ce prix à terme, en fait, il correspond à la valeur d'aujourd'hui, capitalisée de l'intérêt, puisque c'est un prix que vous allez payer dans 6 mois. Voilà. Et pourquoi ? Tout simplement, puisque le contrat que vous cherchez à acheter dans 6 mois, ben, en fait, si c'est une action, vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Et puis, pour connaître le prix à terme, ben, vous devez mettre de l'argent de côté qui doit correspondre au paiement dans 6 mois qui correspond au prix à terme. Et si vous expliquez que les deux objets vous conduisent à la même stratégie, les deux activités vous donnent le même prix et donc on obtient ce genre de remarques. Donc ça, c'est extrêmement important parce que la plus grosse activité dans ces marchés est en fait une activité qui résulte simplement de l'arbitrage et qui ne repose pas sur des modèles ou sur des choses comme ça, sauf sur le monde des produits dérivés, pour lequel la situation est plus compliquée puisqu'il y a une dimension optionnelle et donc on ne va pas pouvoir déduire directement des observations du marché aujourd'hui ce que devrait être ce prix. Donc, en général, dans un contrat d'assurance, les gens, la plupart du temps, essayent d'estimer la valeur moyenne des flux qui sont garantis dans ce contrat et puis essayer de faire un prix autour des valeurs moyennes. Ça, c'est la pratique habituelle de l'assurance. Dans les marchés financiers, on fait, quand on assure, entre guillemets, on garantit l'achat du dollar à un certain niveau, on n'a qu'un coût. C'est-à-dire le dollar va bouger, il peut monter, il peut descendre, il peut faire un certain nombre de choses, mais on ne va pas pouvoir utiliser cette idée de moyenne qui permet de relier la valeur estimée des flux associés au contrat à leur valeur financière. Donc, quelquefois, on se base sur les cours passés, mais ça, c'est dans les marchés où il y a très peu d'informations. Et puis, souvent, on demande l'avis des experts. Mais du point de vue de l'acheteur, une fois qu'il a acheté le contrat, ben, s'il a considéré que le prix était raisonnable, il ne s'en préoccupe plus vraiment, il attend que la chose passe. Donc, ce qui est caractéristique de maintenant, c'est que ce genre d'options, ça existe depuis très longtemps, mais les points importants sont les points... Voilà, des choses comme l'ampleur des liquidités des marchés donc, qui vont être intéressées éventuellement par des contrats d'assurance de temps en temps. Le nombre de supports qui sont concernés maintenant, ces contrats peuvent concerner les actions, les taux, le change, la matière première, les catastrophes, les weather derivatives, les contrats sur le carbone, etc. Et ils sont souvent organisés en marché, alors organisés, excusez-moi pour la redite, c'est-à-dire en fait il y a des marchés financiers sur lesquels les gens se portent garants des opérations qui sont traitées et qui cherchent à donner de l'information et des liquidités. Donc ça, c'est très important. Et le dernier point, c'est, on est clairement passé du stade artisanal, alors l'Antiquité, ça l'était, mais de manière intermédiaire, au stade franchement industriel, puisque les montants négociés sur ces marchés sont maintenant de, je ne sais pas combien... 300, peut-être 1000 milliards de dollars, enfin des sommes absolument faramineuses, sachant qu'en fait, ces sommes ne représentent pas la réalité des échanges, mais juste les montants sur lesquels il y aura des opérations qui sont souvent très petites. Alors, voilà l'exemple typique ici de ce qu'on appelle le profil de risque d'une option d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un vous a garanti que... dans 6 mois, ben, vous pourriez acheter des dollars à 110% du cours d'aujourd'hui. Et si c'est effectivement ce qui se réalise, ou si le dollar monte beaucoup au-dessus de ce niveau, celui qui vous a vendu ce contrat, ben, lui, il risque de perdre tout ça. Et donc, ça peut coûter cher. Donc, si on a juste une estimation des pertes, comme ça, en moyenne, une industrie n'aurait jamais pu se monter sur cette représentation. Et donc, il fallait que des idées nouvelles apparaissent. Alors, j'ai mis ici, ça, c'est les fluctuations du CAC 40 et du FTSE sur je ne sais plus combien de temps. Ce qui est caractéristique ici, ce qu'il faut lire, c'est que vous voyez en gros des tendances. Bon, alors en ce moment, elles sont assez sévères vers le bas. Mais tout toujours autour des tendances, ce n'est jamais régulier. Donc, ça fluctue énormément. Et donc, l'un des enjeux aussi de ces contrats, c'est de lutter à la fois contre les tendances et contre les fluctuations. Alors, pour comprendre aussi ces marchés, c'est important de rappeler la vitesse d'évolution de l'informatique. C'est une chose bête et méchante, mais quand j'étais à la compagnie bancaire en 88, on réservait encore ses heures à l'ordinateur central. Bon, et maintenant, tous nos ordinateurs ont des capacités 100 fois plus importantes. Mais cette croissance de l'informatique est complètement liée aussi à la croissance de la taille des marchés et à la possibilité donc, de communiquer entre les différentes financières, mais aussi de stocker beaucoup d'informations et de traiter énormément de situations. Alors, j'en arrive aux idées que je trouve assez révolutionnaires et qui datent de 1973, en fait, donc c'est pas du récent, et qui viennent en fait de deux jeunes universitaires américains, Blackshall et Merton, Merton c'est un troisième, qui ont écrit un article en fait indépendamment des marchés pour introduire en fait dans le monde des options ce qu'on appelait la théorie du portefeuille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille ? Ben, c'est tout simplement acheter ou vendre des titres qui vous intéressent et éventuellement de le faire juste à partir de la richesse générée par ces titres. Donc, ils observaient en fait que dans ce monde des options, les titres assurés, le dollar, les actions et un grand nombre de choses, en fait, étaient échangeables dans les marchés et qu'a priori, on pouvait suivre leur cours. et que quand on garantit des sommes dans le futur, mais qu'on a le droit qu'à un coup, puisqu'on ne peut pas répartir ce jeu avec beaucoup d'agents, dans des caractéristiques précises, l'idée était de se dire, ben, on va pouvoir utiliser en fait que ces contrats d'assurance, ils sont d'un type particulier, qu'il y a de l'information qui arrive au jour le jour, par exemple sur le cours du dollar, pour essayer de réduire les risques qu'on supporte quand on vend de tels contrats à des investisseurs ou à des clients. Et donc, l'idée de réduire les risques par des ajustements fréquents, c'est ce qu'on appelle le portefeuille dynamique ou le hedging portfolio. Et cette idée-là est extrêmement importante et va se révéler très efficace. Donc, la question, ça va être comment est-ce qu'on va apprécier la stratégie et comment est-ce qu'on fait pour la rendre efficace et comment on mesure son efficacité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment dans le monde de l'assurance et de la finance, c'est vraiment révolutionnaire parce qu'on ne se préoccupe pas de savoir combien on va perdre en moyenne. On se dit on a une cible et on va essayer de la poursuivre par un portefeuille. Donc, ça change complètement les points de vue et ça va demander plus de techniques puisqu'il va falloir suivre au jour le jour, moyens informatiques et avoir un modèle en fait pour décider de ce qu'on fait. Alors, la première question, c'est avec ce que j'ai monté, est-ce que c'était possible de représenter les variations des cours par un modèle ou une simulation ? Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de fluctuations qui ressemblent à la trajectoire de la marche au hasard. Et donc, le mouvement brownien introduit d'une manière indirecte par Bachelier, mais très présent auprès des physiciens dans toutes les années, à partir des années 1900, va se trouver au cœur de la modélisation. Et on va utiliser tous les moyens informatiques pour résoudre le système. Alors, je montre par rapport au graphe des cours à quoi ressemblent quelques trajectoires browniennes tirées au hasard. Et ça, c'est des browniens en deux dimensions 2, c'est Colonna du CMAP qui fait ces belles images. Bon, et en fait, l'un des outils, ça va donner un sens à la modélisation très fréquente des portefeuilles sur lesquels on va invertir souvent et on va avoir besoin d'outils sophistiqués, enfin plus sophistiqués, en tout cas surprenants dans le monde de la finance, qui a été en fait l'introduction du calcul stochastique et donc dont on a appris, et Jean a fait un hommage plus que justifié et chaleureux pour le professeur Ito pour sa contribution incroyable à cette vision des processus stochastiques. Et donc, en finance, on va avoir besoin, on fait fondamentalement de la formule d'Ito, qui dit qu'on va prendre ces processus-là qui sont... c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, il y a comme caractéristique d'avoir énormément de fluctuations, d'être hautement non-dérivable à cause des changements de pente. On va être capable de développer ce qu'on appelle un calcul d'Ito sous la réserve que les variations quadratiques, en fait, donc... à petits échanges de temps et une limite finie. Et donc, ce que montre Ito, c'est que si on cherche maintenant à prendre une fonction de l'état du système à une date donnée, en fait, on va pouvoir faire un calcul différentiel qui correspond, ressemble au calcul différentiel ordinaire. Il y a ce terme et ce terme qui sont standards. Et puis, il y a une correction qui vient des termes d'ordre 2 dans les formules de Taylor et qui disent que dans... le cas où il y a ce bruit, ben cette correction-là ne s'annule pas, contrairement au mouvement déterministe et différentiel. Et donc, par ailleurs, faut donner un sens au terme qui est ici, et ce sens-là, correspond à les sommes de Riemann. Hein, on fait une intégrale avec des variations, et ces sommes de Riemann, en fait, peuvent très bien s'interpréter comme la variation de valeur d'un portefeuille qui aurait dans son portefeuille une certaine quantité d'un titre et dont la variation du titre serait cette représentation. Donc Bachelier en 1900, de manière très surprenante, introduit un point de vue en temps continu et ce sera celui aussi qui sera utilisé par Black-Scholes et Merton parce qu'en fait il va permettre de résoudre extrêmement rapidement le problème de l'assurance, couverture des titres risqués. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement ? Que par absence d'arbitrage, le produit d'un produit dérivé, c'est celui du portefeuille qu'il réplique. Et donc, on peut oublier presque tout modèle, en fait. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que si la cible est une fonction de l'action à maturité, on n'a qu'à retourner à la formule d'Itô. Dans la formule d'Itô, vous voyez ici qu'il y a un seul terme qui correspond à la variation en fait de l'actif avec un certain nombre de poids. Et donc, si on peut trouver une fonction pour laquelle les termes en dt et variation quadratique s'annulent, on aura la réplication d'un flux de ce type par ce qu'on peut appeler un portefeuille et qui est l'objectif numéro un de la finance de marché. Et donc, c'est ce qu'on réalise ici sur ces graphes. Donc ici, en bleu, j'ai la trajectoire d'un actif dans un modèle donné. En rouge, c'est la valeur du portefeuille. Donc en fait, c'est d'une certaine manière, à n'importe quelle date, le prix qu'on va donner au flux futur, toujours par absence d'arbitrage. Ça, c'est pour le voir mieux. Et donc ici, on a un payoff de put, en fait, c'est l'inverse du call. Et on voit que la trajectoire, à la fin, elle termine en dessous de la valeur. Et donc, on va essayer de hedger ça. Et donc, la valeur du portefeuille va arriver exactement à cette hauteur. Et pour se couvrir, en fait, on va être obligé d'acheter pas mal d'actions pour essayer de limiter les pertes de ce qu'on devrait payer dans ce cas-là. Et les montants en actions, enfin, ou en titres qu'on doit investir est décrit par cette quantité-là. Donc ici, on voit qu'on peut répliquer par notre portefeuille exactement la quantité qu'on doit payer. Et ça, c'est possible parce qu'en même temps, on a fait une simulation dans un modèle cohérent. Alors, on peut faire ça différemment. Ici, on ne doit rien payer à la fin. Et donc, on voit que la richesse s'annule et que, par contre, il faut garder un certain nombre de choses dans le portefeuille. Donc, plus précisément, est-ce que c'est complètement mythique ? Eh bien, non. On peut démontrer très rapidement, mais c'est exactement la preuve que je vous ai montrée en inversant les termes, qu'en fait, si on a un produit qui, à la fin, va payer H de grand S de T, une certaine fonction de dollars ou d'une action ou d'un indice, alors le prix de, dans un modèle donné, le prix de ce flux est donné par la solution d'une équation aux dérivées partielles. Donc les choses se compliquent un petit peu, mais le point le plus important pour le marché, c'est de savoir que la stratégie de couverture est obtenue en prenant la dérivée en fait de cette fonction par rapport aux variations du sous-jacent. C'est finalement quelque chose d'assez intuitif, mais qui n'est pas toujours vrai. Alors, en même temps, on a bien expliqué que les prix n'apparaissaient pas comme des estimations des risques, mais quand même, on peut réinterpréter l'équation qui est derrière, rechercher sa solution fondamentale et pouvoir interpréter le prix comme on fait l'intégrale du flux terminal par rapport à la solution fondamentale. Et en étendant ça d'une manière un peu plus riche, on peut trouver une probabilité qui dit que le prix, c'est toujours l'espérance du flux. La grande différence par rapport à ce qui se passe auparavant, c'est que ici, si vous regardez, le petit r, c'est le taux d'intérêt du marché. Et donc, dans les paramètres de cette équation, il y a extrêmement peu d'informations. En particulier, je n'ai pas du tout précisé quelle est la tendance de l'actif, est-ce qu'il a plutôt tendance à monter, à baisser, etc. Parce que par la couverture dynamique, on a réussi, en fait, à s'affranchir de la tendance générale du marché. Et donc ça, c'est une chose extrêmement importante puisque ça va permettre de monter une activité qui ne se jouera pas sur le pile ou face, mais qui permettra de contenir effectivement sérieusement les risques. Alors, on contient mieux les risques si on connaît le modèle sous-jacent. Et donc, la question d'identification du modèle, c'est l'activité essentielle des ingénieurs quantitatifs dans la banque quand ils travaillent sur ce genre de choses. Le paramètre qu'on voit apparaître ici, qui est le sigma 2, qui s'appelle la volatilité, va être en fait le paramètre d'incertitude, en quelque sorte, qui va rester une fois qu'on a couvert le risque maximal, qui est le risque de tendance, a priori. Et donc, grâce à ces techniques-là, on arrive à diminuer, d'une certaine manière, un certain type de risque dans les marchés, à permettre d'assurer les gens à un niveau qui est relativement faible. On parle là de la volatilité. Quand ce paramètre est connu et constant, c'est la formule que proposait Black et Scholes dans le temps, et c'est une formule qui est très célèbre et qui sert de référence en fait à toute l'activité de marché. Donc les gens vont écrire les prix en Black-Scholes avec un niveau de volatilité assuré. Donc c'est ce qu'on appelle la volatilité implicite, mais c'est une convention en fait pour, en quelque sorte, avoir un facteur qui permet de normaliser le prix et de comprendre quelles sont ses caractéristiques. Et donc le marché discute de volatilité implicite et pas de tendance de marché. Donc effectivement, une des choses conséquences de ce genre d'activité, c'est que le risque à la hausse ou à la baisse, il a été plus ou moins supprimé, mais on voit apparaître un nouveau risque, et bien c'est les traders qui gèrent le risque de fluctuation. La tendance, c'est à peu près capté, mais les fluctuations, ça ne l'est pas, et donc c'est l'un des enjeux permanents dans les marchés de se couvrir contre les fluctuations que j'ai vues. Alors, que j'ai montré. Donc, en fait, c'est une grande question, c'est que toute cette activité-là, elle tient la route quand elle est dans un univers où ça monte un peu et où les fluctuations sont raisonnables. Mais quand vous avez des fluctuations comme en ce moment, où les variations, donc les fluctuations raisonnables, d'habitude, c'est 0,1% ou des choses comme ça dans un marché assez risqué, dans une journée. En ce moment, si vous entendez les cours, on est entre 5, 6, 7, voilà. Et donc, absolument rien de ce qui repose, justifie ce genre d'activité, ne tient la route dans ce contexte-là. Puisqu'il suppose qu'il y ait un minimum d'échanges, de liquidités, de choses comme ça, et que ça, ça a complètement disparu. Donc ça, c'est un exemple, en fait, de ce paramètre de volatilité, la volatilité implicite, qui, dans un modèle de Black-Scholes, devrait être constant, et sur lequel on observe que ce n'est pas le cas. Mais ça, ça veut dire qu'en fait, le vrai modèle sous-jacent, ce n'est pas un modèle très simple, comme l'avait proposé Black-Scholes, et toute l'activité du marché, c'est de réfléchir sur ces questions-là. Alors, évidemment, on est présenté une problématique assez idéale, qui est assez robuste, en fait. Ça explique, elle a été très utilisée depuis 1973, quand il y a eu des marchés organisés, 1988 en France, avec la création du MATIF. Et en fait, elle permet effectivement de réduire un certain type de risque, mais elle ne permet pas de tout résoudre. Alors, il faut bien voir que les modèles, la manière dont je vous ai évoqué ces questions, n'ont pas du tout la prétention de résoudre tous les problèmes de modélisation relatifs aux données financières. L'objectif ici, c'est d'avoir un modèle qu'on peut réajuster au jour le jour et qui va essayer de couvrir le risque principal. Alors, on a vu qu'il y avait une équation aux dérivées partielles. Il y a beaucoup de problèmes numériques et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là, parce que, en fait, étant donné des prix, essayer de retrouver les paramètres, ça correspond souvent non pas à des techniques statistiques, mais plutôt à des problèmes inverses mal posés. Et les problèmes de stabilité, etc., sont compliqués à gérer, mais on peut dire que c'est le quotidien des ingénieurs quantitatifs dans la banque. Et l'autre chose, c'est que souvent en finance, on a l'impression d'avoir affaire à un problème très classique, mais en général, ce n'est pas le cas. Par exemple, en proba, on sait beaucoup de choses sur le drift, sur la tendance, assez peu sur le bruit dans les estimations statistiques et autres. Et en finance, il n'y a que le bruit qui intéresse les gens, donc il faut recenser un certain nombre de choses. L'aspect numérique, en fait, est fondamental et a eu beaucoup d'incidence, en fait, sur le développement de nouvelles méthodes numériques. Il faut savoir qu'un prix doit être fait dans le marché en une seconde, au maximum. Au-delà, ce n'est pas accepté par les traders. Et donc, toutes les méthodes pour accélérer les méthodes de calcul ont été utilisées. Mais par ailleurs, depuis quelques années, on observe, en fait, que grâce à la puissance des ordinateurs, on peut utiliser des méthodes numériques probabilistes, c'est ces méthodes de Monte Carlo, qui disent que du moment qu'on écrit quelque chose comme une espérance, on peut faire des simulations, répéter l'expérience et en déduire une valeur du prix. Donc ça, c'est très utilisé dans les banques parce qu'ils ont des gros calculs de grande dimension à faire. Et en fait, il y a eu une véritable stimulation de la recherche académique dans ce domaine pour explorer des tas de zones. Et en particulier, on verra explorer aussi des méthodes d'optimisation. Par ailleurs, on a vu qu'il pouvait y avoir des risques résiduels super importants, que ça n'empêche pas les gens de se comporter assez n'importe comment. Mais contrairement aussi à ce qu'on croit, il y a quand même un minimum de surveillance dans les marchés. En particulier, il y a le calcul d'un chiffre un peu mythique qui s'appelle la valuatrice sur l'activité agrégée d'une salle de marché et qui correspond au quantile à 95% des pertes possibles en un jour. Donc moi, j'ai évoqué qu'on faisait des portefeuilles dynamiques très, très court terme. On mesure le risque agrégé d'une salle de marché sur la journée. Donc, une des caractéristiques de toutes ces observations, c'est que, en fait, beaucoup de choses sont faites à un horizon d'un jour, cinq jours au maximum, et pas toujours avec du recul. Alors, je voulais juste dire que, alors qu'on travaille plutôt avec une vision, en tout cas plutôt brownienne et senso, en fait, dans l'analyse des risques, les processus de Lévy au queue de distribution épaisse, et Lévy était donc un mathématicien français qui a fait des exploits, tout ça est très important. Donc je vous montre ici ce que c'est que le PNL d'une salle, en fait. Donc vous pouvez observer, donc c'est ce que calcule, hein, c'est les résultats agrégés de toute la salle de marché dans les activités de produits dérivés. Donc de temps en temps c'est positif, de temps en temps c'est négatif. En moyenne c'est plutôt zéro. Mais les grandes pertes, ici la ligne qui est en bas c'est la VAR, et si vous touchez plus de deux fois dans l'année cette ligne d'en bas, eh ben, vous devez provisionner beaucoup plus d'argent ensuite dans le futur. Alors en fait, au moment où on a installé ces créneaux, ces mesures de risque, il y a eu un débat important entre la communauté académique et la communauté professionnelle sur la performance du critère, donc cette value at risk, qui ne paraissait pas très adéquate, au moins aux académiques, notamment parce que ce critère-là n'est pas un critère convexe, et ça veut dire donc que si vous rassemblez l'idée toujours de la finance, c'est que si vous mettez ensemble des choses un peu différentes, ça doit diminuer le risque, et ce critère-là ne le caractérisait pas. Donc il y a eu une activité académique très importante sur ce que devait être une mesure de risque, alors monétaire, ça veut dire qu'il soit associé à un calcul de réserve et de fonds propres dans le milieu professionnel, et donc on a une caractérisation générale de ces mesures de risque comme étant associée à une idée de pire scénario. Donc on se donne des familles de scénarios pour estimer les risques, et puis on calcule la perte moyenne sur ces scénarios, et on pondère ça d'une pénalité qui est liée à l'importance de la probabilité dans cette représentation-là. Alors, dans la version dynamique de ça, on a ce qu'on appelle des équations stochastiques rétrogrades, en fait, qui sont des sortes de généralisations de la théorie du portefeuille qui réplique. Et ces équations-là ont été très utilisées pour résoudre une version dynamique de ça, c'est-à-dire résoudre en fait des problèmes d'optimisation qui apparaissent comme des suprémums d'espérance par des méthodes de Monte Carlo. Or, les méthodes de Monte Carlo sont bien adaptées à définir l'espérance de quelque chose. Enfin, il faut travailler, mais c'est faisable. Tandis que prendre le sup, là, ça devenait très compliqué. Et ce nouveau point de vue donc, a stimulé la recherche dans cette direction et dans la recherche de méthodes efficaces. Et donc, c'est un exemple des interactions qu'il peut y avoir régulièrement entre les besoins du milieu professionnel et la banque. Je voudrais maintenant revenir sur les mathématiques face à la crise. Alors, j'ai parlé que d'un secteur très limité, mais qui a pas mal d'impact dans les marchés. Un grand nombre de choses, quand même, peuvent être signalées. Comme on a une pratique de la gestion quotidienne, en fait, la salle de marché fait son bilan tous les jours, on a vraiment tendance à perdre la vue d'ensemble du marché. Les gens sont bien couverts pour un jour, mais peuvent très bien ne pas s'apercevoir qu'ils sont sur une pente très savonneuse. Par ailleurs, pour trouver les prix, on se calibre au prix de marché des prix des produits qui sont traités. Et ça, c'est aussi une sorte d'auto-validation des prix de marché, qui, de temps en temps, ne sont pas très raisonnables. Alors, en ce moment, on ne considère pas qu'ils soient raisonnables, mais même, de manière générale, c'est une critique qui peut résulter, en fait, de l'expérience de cette crise aussi. Par ailleurs, c'est le même genre de méthodologie qui est appliquée à tous les sous-jacents. Alors, bien sûr, c'est nuancé suivant la liquidité, etc., mais ça minimise l'importance de la spécificité des marchés. Et il y a un postulat implicite qui suppose que cette activité ne change, n'a pas d'influence directe sur la valeur du sous-jacent. C'est pour ça qu'on les appelle dérivés. On considère que les prix sont donnés par le marché. Et donc ça aussi, c'est à remettre en cause sérieusement. Par ailleurs, dans les nouveaux marchés qui ne sont pas très liquides, c'est souvent appliqué tel quel et sans réfléchir. Mais même quand on a des réserves, on n'est pas toujours très entendu. Un autre biais que je commence à percevoir, c'est que lié à l'augmentation de l'activité, en fait, pour traiter tout ça dans les salles, ils ont besoin d'avoir des activités beaucoup plus automatiques, beaucoup plus standardisées, mais ça, ça implique que la réflexion avant sur les produits et le risque individuel a eu tendance à disparaître. Associé aux mathématiques, je voudrais juste faire le point sur la formation et je m'arrêterai. À propos de la formation en maths financière, donc on a monté un master en 90, juste après la création du Matif. Il a eu beaucoup de succès, mais en fait, ces 5 dernières années, on a vu exploser partout, dans toutes les écoles d'ingénieurs, dans les facs, des formations de mathématiques financières qui étaient drainées par la bulle, mais qui maintenant... vont être durement touchés, en fait, comme ça s'était passé pour l'informatique il y a une vingtaine d'années. Et les débouchés vont être très durs, au moins pour ces ingénieurs quantitatifs, pour au moins 2 ans ou 3 ans. Mais l'une des choses sur lesquelles il faut revenir, c'est que, contrairement à ce qu'on peut expliquer, on nous a reproché d'être trop technique. Moi, je pense qu'ils font former des gens très compétents techniquement, qui maîtrisent très bien les outils académiques, on va dire, qui comprennent la finance et aussi qu'ils soient capables d'un minimum d'éthique par rapport à leur pratique. En fait, c'est difficile de vivre dans un monde dont le support productif, c'est l'argent. Et on voit souvent des gens qui dérapent indépendamment des structures globales qui dérapent vers les bulles. Donc les marchés de dérivés ne vont pas disparaître, contrairement à ce qu'on a pu entendre. En fait, si vous regardez leur fonctionnement, ils intègrent à une vitesse incroyable tous les moyens informatiques, toutes les nouvelles techniques qui sont à leur disposition. Par ailleurs, les hedge funds sont aussi intervenus dans cette technicité. Et le problème est plus comment surveiller et contrôler cette activité, dont une partie est plutôt bénéfique, en fait, pour la société quand elle ne dérape pas, et en trouver des règles de déontologie et aussi de bienséance pour les gens, comme on surveille la nourriture, les médicaments, etc. Et par ailleurs, je pense que ce serait intéressant de former mieux la société sur le point. Donc, mon dernier point de vue... personnel, c'est comme scientifique dans ce monde réel. Je pense être responsable des conséquences de mon activité de formation de recherche, qui a pu indirectement contribuer, en fait, quand on progresse, à prendre plus de risques. Ça, c'est la même chose que la technique pour les voitures, etc. Mais moins de mathématiques dans l'avenir, ça, je ne le crois pas, ne serait-ce que pour mieux comprendre les risques. Et par contre, je pense qu'il faut contrôler beaucoup mieux les bulles financières dès qu'on les voit apparaître, essayer de stopper, éviter des mouvements comme on les voit maintenant. Je vous remercie.
C'était Nicole El-Karoui, fondatrice et co-directrice du master Probabilité et Finance, Paris 6, École Polytechnique. Elle s'exprimait sur les mathématiques dans la finance de marché et plus particulièrement sur la gestion des produits dérivés, un thème d'actualité dans le cadre de la crise financière. Cette communication avait lieu en novembre 2008 lors d'une séance de l'Académie des sciences dans le cadre des défis scientifiques du 21e siècle. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.